Affaire Farewell, une taupe au KGB. Le service de contre-espionnage français est pris de court. Les documents de la taupe sont intéressants, mais cela nécessite une réorganisation. Il faut trouver les moyens d'obtenir les documents au nez et à la barbe du KGB. Jacques Prévost veut engager un ingénieur du Thomson CSF, Xavier Hameille. Diplômé de l'École Polytechnique de Paris, il n'est connu d'aucun service d'espionnage. Pour la DST, il y a moins de chances qu'il se fasse démasquer. Mais la mission n'est pas sans risque. Hameille accepte, mais n'est pas vraiment à l'aise avec cette idée. Sa couverture est officiellement un statut de délégué général de Thomson à Moscou. La première rencontre est programmée pour le 5 mars 1981. L'ingénieur joue au taxi avec sa voiture de fonction, une discrète Renault 20 blanche. Xavier attend la nuit et se rend à l'adresse indiquée par son correspondant. C'est une allée bordée par des magasins touristiques. La rue n'est pas éclairée. C'est l'endroit idéal pour faire monter un étranger à bord de son véhicule. Hameille fait la connaissance de ce Vladimir Vetrov. Ne sachant pas comment aborder cette première rencontre, il lui parle de l'aider à s'enfuir du pays. Mais le Russe s'insurge. Il ne veut pas quitter la Russie, il veut simplement faire passer des documents. Il présente une première liasse contenant des informations importantes sur le fonctionnement du KGB. Hameille fait croire que la DST a déjà ces informations en sa possession. Un coup de bluff, comme lui ont demandé de faire ses supérieurs. Vetrov n'est pas vexé pour autant, au contraire, il lui promet de lui en apporter bien plus les prochaines fois. Les rencontres vont ainsi se succéder entre le mois de mars et le mois de mai 1981. Les documents sont de plus en plus volumineux. Marcel Chalet, le directeur de la DST de l'époque, croule sous le poids des informations. Il n'a pas le temps de toutes les traiter, vu leur nombre et leur ampleur, mais pour la France, ce Vetrov est d'une aide précieuse. Ce dernier n'en a pas vraiment conscience. Pour cette opération, Chalet choisit le nom de code Farewell, un mot anglais signifiant au revoir. C'est une sécurité. Car si les masques venaient à tomber, les Russes penseraient que cette opération est l'œuvre d'un pays anglophone. Cette dernière est un véritable succès, à tel point que Xavier Hameille ne se sent plus capable d'emporter le poids sur ses épaules. La dernière fois, il a photocopié en moins de 2 jours 200 pages de documents originaux sur une vieille photocopieuse. Il a échappé de peu à la prison lorsqu'à la douane de l'aéroport, on lui a demandé de justifier ses bagages. Il a fait passer les documents pour de la publicité. Le douanier a manqué de zèle et l'a laissé passer. À partir de mai, la DST confie cette mission à Patrick Ferrand, un attaché militaire à l'ambassade de France à Moscou. Disposant de l'immunité diplomatique, il n'est jamais embêté par la douane. Ce nouveau rapprochement franco-russe va donner lieu à 18 rencontres. En moins d'un an, près de 3500 documents sont transmis à la DST. Durant l'été 1981, depuis sa maison de campagne, Vetrov recopie soigneusement sur un carnet d'écolier les noms de 215 agents secrets soviétiques en poste dans divers pays capitalistes. La liste comprend leurs noms, adresses et numéros de téléphone. En France, l'affaire Farewell est une belle opportunité pour François Mitterrand de redorer son blason auprès des Américains. Depuis qu'il a été élu président, Ronald Reagan l'accuse de travailler avec un gouvernement communiste. La réputation du chef d'État français est mise à mal par la première puissance mondiale. Mitterrand compte se servir de cette opération d'espionnage pour montrer que son pays n'est pas à la botte des communistes. Lors du G7 qui se tient à Ottawa, le président français rencontre Ronald Reagan pour le tenir informé de l'opération. Au début, Reagan est un peu méfiant. En revanche, pour le vice-président George Bush père, c'est un petit miracle qui va permettre à la CIA de mieux faire sa chasse aux communistes. Les États-Unis et la France décident de collaborer en vue de faciliter le travail de la taupe. La CIA met au point un appareil photo miniature destiné à Vetrov. Ainsi, plutôt que de recopier des informations ou de voler des originaux, il n'a plus qu'à prendre des clichés des documents qui seront ensuite examinés par le service de traduction de la DST. Cependant, ce dispositif est loin d'être le fruit d'une belle collaboration entre deux pays. C'est surtout le moyen pour les Américains d'obtenir des informations avant la France. Un objet de mise en concurrence, en quelque sorte. Il se trouve que pour lire la pellicule, il faut d'abord la développer. Or, cela ne peut se faire qu'au sein du département de recherche de la CIA. La DST ne compte pas se laisser faire. Lorsque Patrick Ferrand récupère les pellicules, celles-ci sont transmises à un laboratoire spécialement développé par Kodak. La fin de l'année 1981 approche, et Ferrand sent que son contact russe est de plus en plus déprimé. La France ne fait rien du tout pour motiver l'espion dans sa tâche. Prévost ne prend plus de ses nouvelles. C'est à peine s'il reçoit quelques cadeaux de remerciement. Vetrov trahit par esprit de vengeance et par déception, pas pour l'argent. Mais il s'attend tout de même à un peu plus que quelques bijoux pour sa maîtresse et des caisses de champagne. Pour lui donner un peu de satisfaction, l'attaché militaire l'informe que les USA sont reconnaissants pour tout le travail qu'il a fourni. Et pour cause. Le dernier document transmis évoque le fonctionnement complet des pillages de l'organisation VPK, la Commission pour l'industrie militaire, dépendante du KGB. Le document comprend également 4 feuillets, un bilan de toutes les activités d'espionnage à l'étranger. Vetrov repart de cet entretien satisfait, mais est rapidement rattrapé par la réalité de sa situation. Les échanges avec Ferrand restent strictement professionnels. Dans cette opération, il est seul au monde. En novembre 1981, Marcel Chalet, le directeur de la DST, estime qu'il serait préférable, pour la sécurité nationale du territoire, d'interrompre le contact avec leur informateur pour au moins 2 mois, afin d'éviter d'éveiller les soupçons par des rendez-vous trop fréquents. Patrick Ferrand, à l'occasion d'un dernier rendez-vous, prétend devoir prendre des vacances. Il n'est pas autorisé à donner les vraies raisons de cette absence. Vetrov sent qu'on essaye de lui cacher quelque chose. Avec le temps, il est devenu très susceptible, presque paranoïaque. Il prend très mal ce mensonge et se replie sur lui-même. Les fêtes de Noël se passent dans une ambiance morose. Du côté français, on est incapable de s'imaginer le degré de mal-être du collaborateur. Lorsqu'il retrouve Vladimir, le 26 janvier 1982, Patrick constate qu'il est dans un état second. Son discours est inintelligible. Il lui lance simplement un « tout est foutu » avant de partir. Le français édite son rapport à la DST, qui ne prend pas la mesure de la situation. Le service de contre-espionnage estime que le russe a besoin de repos. Ils envisagent d'organiser un nouveau rendez-vous le 24 février 1982. Mais c'est trop tard. Le 22 février, au soir, Vladimir quitte son bureau en compagnie de Ludmila. Il dit qu'il veut l'emmener dîner quelque part, mais il a autre chose en tête. Il veut régler un différend avec sa maîtresse. Il la soupçonne d'en savoir trop sur ses activités d'espionnage. Une fois de plus, l'espion est sous. Tout cela ne peut rien donner de bon. Arrivé un peu à l'écart de la ville, il gare sa voiture sur un parking mal éclairé. Il se saisit d'une bouteille de champagne et, sans crier gare, la fracasse sur le crâne de sa maîtresse. Cette dernière hurle de douleur avant de perdre peu à peu connaissance. Ses cris ont alerté un garde. Vetrov sort un petit poignard qu'il avait conservé dans la boîte à gants de sa voiture et frappe le garde au thorax. Pas de chance pour l'agent du KGB. Sa maîtresse et le garde survivent à leurs blessures. Vetrov est arrêté le 23 février. Le gouvernement soviétique le condamne à 12 ans de prison ferme. Il ne tiendra pas 3 ans. Le 14 décembre 1984 ou le 23 janvier 1985, les sources varient à ce sujet, il est exécuté d'une balle dans la tête dans sa prison glaciale de Lefortovo. Nous n'avons pas d'informations sur ses conditions de détention. On peut imaginer qu'il a été torturé à multiples reprises et interrogé. Peut-être a-t-il fini par lâcher des informations compromettantes sur ses relations avec la DST. On sait que durant son procès en 1984, il est passé aux aveux complets sur son intention de trahir le KGB. D'anciens agents russes ont dit qu'il avait certainement des relations avec des services de contre-espionnage étrangers, sans être capable de préciser lesquels. La France aurait-elle pressenti des retombées néfastes ? Le préfet Yves Bonnet, le remplaçant de Marcel Chalet à la tête de la DST, prend connaissance de l'ensemble des documents fournis par la taupe. Il est impressionné par ce travail et décide d'exploiter enfin ces informations en vue de mener une action de grande ampleur. Le 5 avril 1983, 47 ressortissants soviétiques sont expulsés de France. 12 de ces ressortissants travaillaient officiellement à l'UNESCO, une parfaite couverture pour pratiquer de l'espionnage à Paris et rencontrer toutes les personnes souhaitées. La plupart des espions expulsés avaient des fonctions diplomatiques. Nous n'avons pas plus de données précises sur l'impact réel de toutes ces pages d'informations. Pour les spécialistes de la guerre froide, cela a fortement déstabilisé le travail du KGB et contribué, en partie, à la chute de l'URSS. Quelques années plus tard, l'opération Farewell sera autant saluée que critiquée. Les autorités se sont appropriées le travail de la taupe pour en faire un succès français. Certains anciens membres du KGB reconnaîtront l'incroyable travail réalisé par Vetrov, tout en reprochant à la France de ne pas avoir pris soin de leur espion. Si on lui avait porté un peu plus d'attention, il aurait pu réaliser un travail encore plus grand. Les États-Unis parlent également de négligence par des canaux non officiels. Farewell est l'opération de contre-espionnage la moins coûteuse qu'a pu réaliser le département de surveillance du territoire. Les frais de service et les différents cadeaux de remerciement pour Vetrov n'atteignent même pas les 15 000 euros. Vladimir Vetrov, selon les propos de Patrick Ferrand, était décidément un homme humble, honnête. Sa seule motivation était d'aider un pays qu'il aimait beaucoup et qui aurait laissé une empreinte profonde dans son âme. Il avait affirmé détester avec répugnance ce régime totalitaire qui écrase la personnalité.